Bonjour, c'est Gérard. Donc, nous avons une émission spéciale aujourd'hui de Ma commune est utile. C'est une émission spéciale sur la fiscalité et je reçois dans ce cadre-là Maurice Chabrol qui est maire et qui est un petit peu plus spécialisé et qui va essayer de nous donner des explications sur les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement, entre autres à partir de la taxe d'habitation, voir les conséquences que ça a pour la commune et le département.
Oui, bonjour. Donc, je suis le maire du Bourdeix, petite commune au nord du département. Donc sur la réforme de la taxe d'habitation qui a été voulue par le président de la République, donc je vais pouvoir apporter des explications, des conséquences surtout pour le contribuable et ainsi pour le département qui aujourd'hui ne perçoit plus de fiscalité locale.
Donc pour nos auditeurs, la fiscalité locale, elle était composée de grands sujets, donc la taxe d'habitation et la taxe foncière, c'est bien ça?
Oui, donc la fiscalité locale, donc c'est la taxe d'habitation, bien sûr, qui en fait partie. Aujourd'hui, supprimée sur les ménages permanents, parce que tout ce qui est résidence secondaire, elle existe toujours. Après, il y a la fiscalité sur le foncier non bâti et sur le foncier bâti. Voilà, donc cette suppression de la taxe du foncier bâti que ne perçoit plus le département de la Dordogne, il faut savoir que ces taux foncier bâti commune, foncier bâti conseil départemental, c'est un taux qui s'additionne. Effectivement, ça fait un volume financier, évidemment. Volume financier. Et ce qui se passe, c'est que nos communes peuvent se trouver, mais comme la plupart des communes en Dordogne, se trouvent surcompensées et certaines peuvent se trouver sous-compensées.
Alors, là, quelques précisions. Qu'est-ce que tu entends par surcompenser? C'est-à-dire qu'elles vont toucher plus ou sous-compenser, elles vont toucher moins, c'est ça?
Surcompenser, ça veut dire que le produit financier, on va dire, est plus élevé que ce que recevait la commune avant la suppression de la taxe d'habitation. Donc là, c'est la commune se trouve surcompensée. Donc et sous-compensée, c'est que la commune, par rapport à son produit attendu, devient inférieure par rapport à ce qui touchait avant la suppression de la taxe d'habitation. Ce qui se passe en Dordogne, on se trouve sur les 503 communes. 463 communes qui sont surcompensées, c'est énorme, et 5 communes qui sont sous-compensées. Comment ça se calcule? Ça se calcule par rapport au taux que possède la commune entre sa taxe d'habitation avant la suppression et son taux de foncier bâti. Bon, c'est un calcul, une formule de calcul qui a été réalisée par Bercy. Bon, c'est pas simple, j'ai passé du temps à la trouver. Et aussi par rapport, après il y a un autre calcul qui se fait par rapport au taux que pratiquait le département. Alors en département, si je prends un département comme la Dordogne, où nous sommes, la Dordogne avait un taux assez élevé par rapport même au département voisin qui est la Gironde. Bon, la Gironde, il y a plus de ressources au niveau départemental, ça se comprend aussi. Donc le département de la Dordogne, il y a un taux de fiscalité assez élevé qui s'ajoute au taux de fiscalité de la commune. Donc c'est là qu'on trouve la plupart des communes qui sont surcompensées. Et ça, c'est déterminé par un coefficient, ce qu'on appelle le coefficient correcteur, qui a déterminé dans tous les calculs et les formules qui ont été évoquées par Bercy. Et donc ce coefficient correcteur a une incidence, surtout l'incidence c'est que le département ne percevant plus cette taxe compensée par un fonds de TVA. Alors ce que je remarque et ce que j'ai trouvé, c'est que nos concitoyens dans nos communes qui paient de l'info foncier, par rapport à ce coefficient correcteur, il en repart une partie vers Bercy, pour être, soi-disant, mais je n'ai pas de moyens de contrôle, pour que ça soit redistribué sur des communes sous-compensées. Donc, pour exemple, en commune sous-compensée, ça représente environ 81 000 euros qu'on doit restituer à ces communes, à ces 5 communes qui sont sous-compensées. Par contre, les 463 communes qui sont surcompensées, représente plus de 57 millions d'euros qui repart vers Bercy pour être, comme je le disais auparavant, redistribué, mais ça, j'ai pas ce moyen de contrôle.
Alors, c'est quand même important, 57 millions pour 460 communes, ça fait des belles sommes. Est-ce que tu as des exemples un petit plus précis pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre?
Alors oui, alors j'ai des exemples. Je vais prendre ma commune, la commune du Bordeaux, qui a un taux à 0,75, 0,9, 0,66, parce que Bercy sont très forts, ils ont été 6 chiffres après la virgule. Bon, c'est très bien. Donc pour le Bordeaux, ce 0,75, je vais arrondir, ça représente plus de 24 000 euros que mes administrés ont payé pour qu'ils ne restent pas sur le département, ce qui ne reste pas sur la commune, mais ni sur le département de la Dordogne, qu'autrefois, ça restait sur le département de la Dordogne.
Alors, pour bien comprendre, ces 57 millions, c'est les 463 communes et plus le département.
Non, ces 57 millions, c'est 57 millions qui sont pompés fiscalement par les concitoyens de Dordogne, l'ensemble des communes, des 463 communes, qui représentent 57 millions. Et ça repart vers Bercy. Alors moi, j'ai cité ma commune, 240 habitants, mais je peux en citer d'autres communes. J'ai par exemple Rouffignac de Sigoulès, bon, avec un coefficient à 0,80, et lui, il a 24 800 qui repart. Je peux en citer d'autres, Saint-Pardoux-la-Rivière, par exemple, qui a un coefficient à 0,62, c'est plus de 214 000, pour ne pas dire 215 000, qui repartent des contribuables de Saint-Pardoux-la-Rivière. Alors, plus le coefficient est bas, et plus les concitoyens vont abonder d'argent qui va partir sur Bercy. Parce que il faut savoir que ce coefficient, il peut démarrer, bon, je sais qu'il y a des communes, celles-ci, je ne les ai pas relevées, qui sont en dessous 0,50, mais quand j'ai relevé un panel d'une vingtaine de communes, alors ça démarre de 0,62, ça peut aller, si j'en ai une qui est à 0,82. Donc voilà, alors en fonction du coefficient, mais c'est plus d'argent qui repart. Alors ce coefficient, il est calculé par rapport au taux de fiscalité que pratique la commune à l'époque où ça a été calculé, en 2021. Voilà. Donc, plus les communes avaient un taux élevé dans leur imposition, et plus s'impactaient. Moi, je vois, j'ai une commune comme Nontron, qui a des taux très élevés, elle est à 0,82. Une commune comme Piégut-Pluviers avec des taux très bas se retrouve à 0,66. Ça veut dire qu'il y a 24% de l'impôt du contribuable qui repart vers Bercy.
Donc, en gros, si j'ai bien compris, moins une commune imposée ses habitants, plus il y a de l'argent qui s'en va sur Bercy.
Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi au niveau des communes, il faut faire très attention parce qu'il y a aussi l'effort fiscal. L'effort fiscal, c'est en fait c'est les taux que délibèrent les conseils municipaux, donc foncier bâti, foncier non bâti et taxe d'habitation. Donc c'est ce qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup de communes, je sais, pour faire plaisir aux administrés, ils n'augmentent pas leurs taux, etc. C'est bien, mais c'est pas bien à la fois parce que l'effort fiscal n'y est pas. Parce qu'il peut y avoir un autre impact aussi. Quand l'effort fiscal n'est pas pratiqué dans une commune, ils peuvent se trouver en baisse de d'autres dotations, particulièrement la DGF. Et aussi, je regarde.
Alors, précise ce que c'est la DGF.
Ben, c'est la dotation globale de fonctionnement qui est attribuée par l'État. Effectivement, il y a plusieurs critères. Cette DGF est attribuée par rapport à la population, par rapport au fonctionnement interne de la commune, mais aussi il y a une part qui va sur l'effort fiscal. Aussi également, s'il n'y a pas d'effort fiscal, on peut se trouver avec une DGF qui diminue, surtout vu ce qui se prépare dans l'avenir, à mon avis. Donc, après, on retrouve cet effort fiscal sur certaines dotations, telles que les droits de mutation. Les droits de mutation, il y a aussi l'effort fiscal qui est pratiqué. Si l'effort fiscal ne bouge pas, ou très bas, bon, ben, ils ont moins de contributions.
Comme c'est un petit peu compliqué tout ça, on va se faire une petite pause musicale et on va reprendre après.
D'accord.
Bon, à tout de suite.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Bon, après cette petite pause musicale qui vous a permis d'un petit peu de souffler, on va reprendre notre information sur cette fiscalité parce que c'est pas toujours évident à comprendre. Donc, sachant que bon, une commune, si elle fait pas l'effort fiscal parce qu'elle a pas voulu pénaliser sa population, puis que c'est des petites communes, ils voulaient pas trop investir, tout ça, si aujourd'hui, pour éviter d'avoir cette perte, ils décident d'augmenter leurs impôts, ce qui ne fera pas plaisir à leurs concitoyens, que va-t-il se passer ?
Alors, effectivement, si une commune augmente bien sûr ses taux, on va dire, il faut savoir qu'en augmentant les taux, alors il y a aussi un paramètre qui, moi, j'ai du mal à accepter, parce que quand on augmente un taux, il faut augmenter systématiquement les deux autres, donc en suivant. Quand il y a augmentation du taux Et quand il y a aussi augmentation des bases, alors les bases, c'est l'État qui augmente, ça c'est en fonction du pouvoir d'achat, en fonction de l'évolution. Donc obligatoirement, avec ce même coefficient, ça fait une somme supplémentaire qui repart vers Bercy. Pour donner mon exemple, moi, sur ma commune, j'avais démarré à 21 000 euros en 2021, et maintenant je suis arrivé à 24 000. L'année prochaine, ça sera peut-être 25, je ne sais pas. Quant au département, le département, maintenant, il est sur un fonds de TVA. Ce fonds de TVA, il est attribué par Bercy. Sauf que ce qui se passe au niveau du département, et de tous les départements ruraux surtout, c'est que s'il y a une baisse de la consommation, donc moins d'entrées de TVA qui rentrent au niveau de Bercy, donc ils se retrouvent pénalisés. Et il faut savoir qu'en Dordogne, en 2023, ils ont perdu plus de 8 millions d'euros. 8 400 000 euros qui ont eu de moins par rapport à 2022. Alors cet argent, eh bien, il ne peut pas être redistribué aux communes dans le cas des contrats territoriaux parce que les communes, quand elles ont des investissements, se retournent vers le département qui finance. Sauf que le département, jusqu'à présent, il finance avec des taux inférieurs, mais 2025, on ne sait pas si le département va pouvoir continuer à financer certains projets communaux. Et ça, c'est grave. Donc c'est de l'argent payé par nos contribuables qui repart, que le département n'a pas, que la commune n'a pas. Donc il y aura à un moment donné, à mon avis, et si peu que l'État ou le nouveau gouvernement fasse des restrictions, je me pose quelques questions de ce qui va se passer au sein de nos communes rurales.
Pour faire comprendre notre auditeur, donc cette réforme de la taxe d'habitation, sa suppression, qui soi-disant aurait dû être compensée par l'État, fait qu'aujourd'hui, les communes, donc 463 communes du département, se retrouvent avec 57 millions en moins, et le département avec 8 millions en moins, soit près de 65 millions d'impôts qui sont votés par les territoires et qui ne vont pas à les territoires, qui vont à Bercy.
Effectivement, ça repart vers Bercy, mais à mon avis, ça repart vers les métropoles. Hein. Faut pas se leurrer, hein, c'est des métropoles. Les métropoles sont plus puissantes que nos territoires ruraux, hein, même si les territoires ruraux représentent plus de 80% de la superficie, mais au niveau population, ça ne représente environ que 30% les territoires ruraux. Donc, bien sûr que ça repart vers Bercy, mais ça va vers les métropoles, hein, faut pas se leurrer. Hein. Donc, tout ce financement, donc nous l'avons pas. Et bien sûr, pose problème pour faire face à certains projets, comme le département, le côté social, côté des associations aussi également. J'ai entendu dire qu'ils allaient baisser de 30% la contribution aux associations, donc, et jusqu'au jour où ils pourront rien donner aux associations. Ça veut dire qu'on est en train, par rapport à cette réforme qui a été voulue par le président de la République, nos territoires ruraux peuvent mourir progressivement.
Comment on peut expliquer ça? On ne va pas demander le retour à la taxe d'habitation, quand même.
Non, on ne va pas demander le retour à la taxe d'habitation, parce que là, maintenant, effectivement, que ça arrange évidemment les ménages, on ne peut pas dire le contraire, hein, et surtout le locatif. Alors, effectivement, le retour, pour moi, je vais dire, je sais que je dois rencontrer prochainement les deux sénateurs de la Dordogne, j'ai des propositions à faire. Effectivement, la première proposition idéale, je dirais, ça serait carrément la suppression de ce coefficient correcteur. Voilà. Deuxième proposition, c'est de rapprocher au fil de l'eau ce coefficient correcteur vers 1. Donc pourquoi 1? Parce qu'à 1, on n'est pas impacté. Donc ça serait de le rapprocher peut-être sur, allez, je vais dire, 4 ans, 5 ans, à voir. Une autre proposition aussi que j'ai, c'est de bloquer l'effet des coefficients correcteurs à l'année de référence qui était 2021, où on nous prenait moins d'argent. Et il y a aussi une autre proposition, parce que dans les taux, effectivement, j'ai rencontré sur les 20 communes où j'ai récupéré leur taxe, c'est-à-dire la feuille numéro 1259, où il y a les bases et les taux. Donc, cette troisième proposition, ça serait que chaque maire puisse augmenter son taux où il le souhaite. Soit il augmente la taxe d'habitation, soit il augmente le foncier bâti, soit il augmente le foncier non bâti, sans que ça impacte les autres. Parce que, s'il faut savoir, sur la taxe d'habitation, pour les résidences secondaires, et en Dordogne, Dieu sait qu'il y en a des résidences secondaires, et pas n'importe lesquelles, ça permettrait d'avoir un peu plus de financement, parce que les résidences secondaires, quand on dit résidences secondaires, les gens ont un peu de moyens, faut pas se leurrer, hein. Bon, mais tant mieux d'ailleurs. Donc, parce qu'il faut savoir que beaucoup de résidences, je me suis rendu compte que beaucoup de résidences secondaires deviennent résidences principales, et quand elles deviennent résidences principales, il n'y a plus de taxes d'habitation en tant que résidence secondaire. Donc c'est une perte financière qui peut arriver à tout moment.
Donc sur, on va revenir un petit peu sur le fond, parce que aujourd'hui les communes elles avaient la libre gestion, c'est-à-dire le fait de pouvoir décider de l'impôt, mais au fur et à mesure, elles décident de moins en moins de l'impôt, puisqu'il ne reste plus que sur le bâti. Bon, le foncier, il reste...
Il reste pas grand-chose, il reste que le bâti et le foncier non bâti. Alors sur le foncier non bâti, je me suis rendu compte, il y a des départements, bon, sur le foncier non bâti, il y a quand même plus de recettes d'une commune à une autre, parce que toutes les communes sont un peu différentes sur cette partie-là. Parce que si on prend des communes qui sont plus dans le vignoble du Bergeracois, le foncier non bâti, bien sûr, il apporte beaucoup d'argent. Mais si on prend des communes nord du département où c'est beaucoup boisé, il faut savoir que sur les bois, il n'y a pas de taxes, c'est zéro. Donc on se peut se retrouver, moi je vois sur ma commune, où je suis à 60% boisé, 40% agricole à peine, j'ai quasiment pas de recettes sur le foncier non bâti.
C'est pas facile à gérer de commune. Donc avant t'avais l'impôt, tu peux plus, qui n'existe plus, parce que là aussi le gouvernement a voulu enlever un impôt qui ne le prélève pas, donc ça faisait rien pour lui. Donc ça c'est facile de supprimer les impôts chez les autres. Mais aujourd'hui avec les mesures qu'on entend parler, où l'État va demander aux communes de faire un effort de près de 5 milliards.
Oui.
Ça va être sur la DGF, comme tu disais tout à l'heure, la dotation globale de fonctionnement. Oui. Donc, ils vont faire pression sur les communes pour diminuer du personnel. Mais il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on fasse rentrer l'argent dans les communes.
Alors, oui, effectivement, vu ce que propose le Premier ministre, bien gentil, mais comment vont faire certaines communes? Bon, si c'est des communes dans les métropoles, les grandes villes, bon, ça va aller. Alors, il faut supprimer du personnel, sauf que supprimer du personnel, si du personnel titulaire, on ne supprime pas du personnel titulaire comme ça. Le personnel, il faut savoir que, bon, quand il est juste embauché, il va être à un certain échelon, au plus bas, mais au fil du temps, il évolue, donc il prend des grades, il prend d'autres échelons. Donc au niveau du salaire, on ne peut pas faire marche arrière. Hein, bon, après, il existe des primes, mais comment le personnel va le prendre si on supprime des primes, par exemple, hein, on ne peut pas toucher sur le personnel. Donc il va falloir trouver des économies par ailleurs, et ça va être très compliqué. Sur la DGF, effectivement, comme tu le disais, si l'État donne moins, je ne sais pas comment on va fonctionner, parce qu'aujourd'hui, on a un budget, on sait comment on fonctionne, on a des projets. Quand on met en place un projet, il y a la partie investissement, mais il y a toujours une partie de fonctionnement à suivre. Donc, et dans les communes, bon, moi je vois sur la mienne, bon, on a des toitures à refaire, on a un cimetière à agrandir, et ça coûte cher par contre. Comment on va faire dans le futur, je ne sais pas si je serai toujours élu d'ici là, quand les gens vont mourir, on a l'obligation de leur attribuer une place à un cimetière. Notre cimetière a besoin d'être agrandi, ça coûte très cher, et si on baisse en dotation et on baisse aussi au niveau des subventions, la commune ne pourra pas supporter le reste à charge.
Bon, mais je te remercie pour toutes ces explications. J'espère que ça va satisfaire tous nos auditeurs. Et peut-être qu'on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter avec Alain et Brigitte dans une prochaine émission sur le projet du gouvernement par rapport aux communes et la baisse des dotations. Donc je vous remercie et puis à bientôt pour une nouvelle émission. Bonsoir à tous.